Voix Nues. Toute cette semaine, Stéphane Bou rencontre Rachel Hertel. Ce soir, enseigner, traduire.
Bonjour Rachel Hertel.
Bonsoir Stéphane.
Alors, je voudrais commencer par une phrase, enfin, quelques phrases que vous avez écrites. Je cite. Les années passaient, la culture et la langue yiddish rétrécissaient comme une peau de chagrin. Je voudrais que vous me parliez de ce sentiment de rétrécissement. Et tout de suite, je vous demande, est-ce que c'est lié à ce sentiment de rétrécissement que vous avez ressenti le besoin, dans les années 70, de créer pour la première fois en France un lieu où le yiddish était enseigné, transmis aux nouvelles générations?
Oui, il y avait bien sûr mon désir de transmettre la langue, bien sûr, parce que c'était ma langue, parce que c'était quelque chose que j'aimais, que j'étais entièrement plongée dedans. Et effectivement, j'étais, je sais pas, peut-être la lucidité ou peut-être l'inconscience, j'avais le sentiment que la langue était en train de disparaître dans la mesure où, par exemple, de moins en moins de personnes la parlaient et de moins en moins de personnes s'y intéressaient. Et donc, j'ai voulu créer cet enseignement du yiddish. Et cet enseignement a été très particulier. Moi, j'enseignais la littérature américaine à l'université parisienne Diderot. Et parmi les enseignements que je faisais, je travaillais sur les minorités. Et d'une manière un peu rusée, j'ai dit que, eh bien, il y avait une minorité juive aux États-Unis, minorité qui parlait le yiddish et qui créait en yiddish, et par conséquent, il ne serait pas inutile d'enseigner cette langue. Et donc, nous nous sommes mis à enseigner cette langue.
Mais au début, c'était juste un cours, c'était pas, disons, un centre.
Non.
C'était juste votre cours.
C'était juste un cours que je faisais. Je commençais toute seule, vraiment totalement isolée dans tout Paris, et je commençais toute seule. Et donc, j'ai commencé par donner une toute simple alphabétisation, puisque personne ne connaissait la langue, ou ceux qui venaient en tout cas à ces cours ne connaissaient pas la langue. C'était un début d'alphabétisation.
C'est-à-dire que c'était un cours de langue et non pas un cours de traduction?
Absolument.
Pas un cours d'histoire de la littérature?
Absolument. C'était juste véritablement de quoi prendre en contact avec la langue. Et c'était curieux parce que, évidemment, et le yiddish, comme toutes les langues, a toutes les règles, la grammaire, la syntaxe, les proverbes, les adverbes, etc. C'est une langue comme toutes les autres langues. C'est une langue qui a été créée dans la Rhénanie au 1000e siècle, comme toutes les langues vernaculaires, et qui a maintenant, on peut dire, jusqu'à la génocide et au-delà, jusqu'aux années 60 ou 70, qui a 2000 ans d'existence. Donc c'est une langue pareille à toutes les langues et qui s'enseigne comme toutes les langues sur le plan technique. Mais le problème technique pour enseigner une langue n'est pas suffisant. Parce que il y avait un nombre incalculable d'obstacles à l'enseignement de cette langue. Et ces obstacles étaient de tous ordres. Tout d'abord, il y avait cette espèce d'arrivée des étudiants qui disaient, voilà, c'est mon héritage, c'est la langue maternelle, c'est la langue de mes ancêtres, et donc je dois pouvoir me la remémorer.
Je vais vous laisser évidemment poursuivre, mais c'était des obstacles qui étaient extérieurs à l'exercice même de l'apprentissage
absolument,
de la langue.
C'était absolument, lié au public. C'était extérieur à la technique de l'enseignement. Et donc, ils arrivaient avec ce sentiment que cette langue leur appartenait, qu'ils pouvaient se la remémorer. Mais en fait, on ne se remémore que ce que l'on sait. Ce que l'on ne sait pas, on ne peut pas se le remémorer. Et donc, ils arrivaient et ils étaient surpris de ne pas reconnaître ce qu'ils pensaient connaître. Et il y avait un sentiment donc de frustration d'une part de ne pas pouvoir retrouver ce qu'ils pensaient pouvoir retrouver facilement, d'une part. D'autre part, il y avait d'autres ingrédients qui venaient se mettre dans ces obstacles, c'est-à-dire qu'ils étaient d'une part très fiers que le yiddish puisse être enseigné à l'université, parce que jamais le yiddish n'avait été enseigné à l'université, donc c'était un élément de fierté, mais en même temps, ils le vivaient comme une sorte de viol. Au fond, c'était leur intimité. C'était quelque chose qui leur appartenait, qui leur revenait en héritage. Et donc, ils trouvaient que de l'étaler comme ça sur le tableau noir à l'époque, c'était véritablement comme une sorte de viol.
Vous présentez votre public comme très profondément clivé, en fait, par rapport à la langue même.
Ben forcément, puisqu'il pensait la savoir et il ne la savait pas. Il pensait la posséder, il ne la possédait pas. Donc c'est un public qui arrive.
Il voulait l'apprendre et il ne voulait pas qu'elle soit enseignée, visiblement aussi.
Voilà, ils sont clivés entre les deux, entre la volonté de la connaître, la volonté de l'apprendre et en même temps la volonté de ne pas exposer ce qu'ils considéraient comme étant le plus intime de leur être. Donc c'était véritablement un clivage.
C'était essentiellement des gens de quel âge à ce moment-là? Et c'est, d'ailleurs, c'est à quel moment? C'est quelle année?
Alors,
que vous...
écoutez, l'année où nous avons eu le plus d'étudiants, où j'ai eu le plus d'étudiants de Yiddish, c'était après les années 68, après l'échec du mouvement 68, où beaucoup de jeunes juifs avaient participé à ce mouvement et qui brusquement se trouvaient orphelins de leur mouvement, orphelins de quelque chose, ne trouvant pas de place dans la société. Et ils se sont retournés vers le yiddish comme étant leur place naturelle. Et ils sont venus suivre ces cours.
Ça, c'est vraiment quelque chose que vous identifiez comme tel, un mouvement qui irait d'une gueule de bois qui suit mai 68, qui raccorde avec un retour vers les origines familiales de ces jeunes gens.
Absolument. Il y a une espèce, je dirais presque, un retour du refoulé, qui vient là se mettre, où ils veulent rattraper tout ce qu'ils n'ont pas su. Mais le problème, c'est que moi, je ne pouvais pas représenter tout ce qu'ils voulaient que je représente. Leur mère ne leur avait pas appris, leur grand-mère ne leur avait pas appris, leurs grands-parents ne leur avaient pas appris, ni leurs oncles, ni leurs tantes qui avaient disparu dans le génocide. Et donc, en ce qui me concerne, je devenais en quelque sorte leur mère, leur grand-mère, leur tante, leur cousine, et il fallait que je leur transmette tout ça en même temps. Si bien que je sortais de ces cours pressés comme un citron, parce qu'il y avait une telle demande, une telle attente de sur ce que je pouvais leur apporter, que c'était véritablement une épreuve. Quand je faisais mes cours d'américain, eh bien, je faisais un cours, je sortais fatiguée du cours normalement, mais c'était un cours et puis c'était fini. Mais quand je sortais de ce cours de yiddish, je sortais véritablement totalement épuisée, totalement lasse et en quelque sorte accablée de tout ce qu'on me mettait sur le dos et de tout ce qu'on attendait de moi.
Donc au début des, là on est au début des années 70, dans les années 70, ce sont des gens qui ont entre 20 et 30 ans, j'imagine,
tout
qui
à
apprennent
fait
la langue. Mais vous avez parlé tout à l'heure de ce clivage, hein, de ce fait très paradoxal, hein, d'à la fois vouloir et de ne pas vouloir, mais comment vous l'expliquez?
Eh bien, moi, pour moi, ça me semble très simple, c'est pour ça que je ne l'explique pas. En fait, je pense qu'il y avait ce clivage parce qu'il y avait une fausse perception de ce qu'il savait et de ce qu'il ne savait pas. Et puis, il y avait ce clivage de l'extermination, du Khurban. Et ce double clivage, à la fois, faisait naître la volonté, le désir de l'apprendre, de se l'approprier, et en même temps, une sorte de pudeur de ce qui est intime et qui ne doit pas être révélé au monde entier.
Rachel Hertel, vous avez évoqué donc cette génération de jeunes gens qui veulent apprendre le yiddish et qui viennent de familles où le yiddish ne se transmettait plus. Dans une précédente émission, vous me disiez que vos parents, qui n'avaient pas véritablement voulu apprendre le français, parlaient à vos filles en yiddish, elles répondaient en français. J'ai oublié de vous poser à ce moment-là la question. Est-ce que vous avez voulu apprendre le yiddish à vos enfants? Est-ce que vous avez voulu qu'elles l'apprennent, je pourrais dire formellement, ou vous laissiez la langue comme ça exister sans vous en occuper?
Voilà, le problème est un problème plutôt familial qu'autre chose. Je parlais le français avec mon mari et je tenais à ce qu'il y ait une unité de familiale et pour que l'unité familiale puisse circuler librement et avec aisance. Nous avons parlé français à la maison.
Parce que votre mari était yiddishophone aussi.
Il comprenait le yiddish, mais il ne parlait pas le yiddish. Donc, effectivement, je voulais que la famille reste soudée autour d'une langue, qu'il y ait une fluctuation, une circulation libre et spontanée dans la famille. Plus tard, mes filles sont allées à l'université pour apprendre le yiddish. Mais ça a été beaucoup plus tard.
Et ça a été, on pourrait dire, presque leur propre désir. Enfin,
c'était leur propre désir. Et j'attendais que ce propre désir vienne. En dehors de ce propre désir, je ne voulais rien imposer.
Comment s'est développé cet enseignement du yiddish? Parce que je crois qu'il s'est... Là, vous me parlez d'un cours qui ressemble d'ailleurs presque à une espèce de psychodrame. Hein.
Tout à fait. C'est tout à fait de l'ordre du psychodrame. Et je le vivais comme ça. Et mes étudiants le vivaient également comme ça. Et ça se sentait pendant le cours. Il y avait à la fois une très grande convivialité, une tentative. Il y avait les âges étaient très mélangés. Il y avait des personnes jeunes, des étudiants. Il y avait aussi des personnes plus âgées. Il y avait une espèce d'entente, une espèce de fusion entre ces personnes qui s'entraidaient, qui essayaient d'apporter chacune ce qu'elles pouvaient apporter. Et puis finalement, les cours se passaient néanmoins dans une atmosphère relativement lourde, dans le sens où elle pesait sur moi.
Oui, mais ce centre d'enseignement, il a évolué, il s'est développé. Après, vous avez enseigné la traduction, à proprement parler, l'histoire de la littérature yiddish. C'était plus juste ce lieu très chargé où venaient des étudiants concernés par leur biographie familiale. C'est devenu un véritable centre de recherche aussi.
C'est devenu un centre de recherche, un centre d'études juives en général, et de yiddish en particulier, notamment en s'appuyant sur un centre qui existe à New York, qui s'appelle le YIVO, qui est le centre académique, si vous voulez, du yiddish, et dont le lien est à New York. Et nous travaillons en commun.
Et vous avez enseigné à cette occasion la traduction?
Alors, la traduction, c'est venu plus tard. Il a fallu d'abord apprendre la langue. Et vous savez, à l'époque, j'avais déjà lu Le Moipo, et ce livre m'avait énormément apporté. Il m'avait apporté notamment l'idée que véritablement, la peau, c'était ce qui nous unissait au monde. C'était la surface la plus grande qui nous unissait au monde. Nous n'étions pas isolés du monde par notre peau. Nous étions au contraire en contact étroit avec le monde par la peau. Et tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai senti, tout ce que j'ai vécu m'est arrivé en quelque sorte par cette espèce d'immersion de la peau dans le monde. Et cette immersion de la peau dans le monde m'a appris beaucoup de choses sur le yiddish, bien sûr, mais aussi sur ce que c'était la convivialité, ce que c'était vivre ensemble. Et dans le livre « Le Moipo », j'ai trouvé une citation qui m'a beaucoup surprise de la part de Didier Anzieux. C'est-à-dire, il y a dans une citation qui est empruntée à un écrivain de science-fiction qui s'appelle Gérard Klein et qui a écrit la chose suivante que je vais essayer de vous retrouver dans mes papiers. Voilà. Sur la planète Mars, des explorateurs cherchaient dans le désert des traces d'une vie disparue. Un jour, ils pénètrent dans des falaises dentelées qui ne ressemblent en rien aux paysages érodés qui gisaient tout au long de la planète de sable. Et ils rencontrent l'écho. Je perçois une voix, ou plutôt un murmure, un million de voix. Le tumulte d'un peuple entier prononçant des mots incroyables, incompréhensibles. Le son nous assaillit en vagues successives, tourbillonnantes. Dans cette vallée, des échos ont rassemblé les sons d'un peuple disparu, seul endroit de l'univers où les fossiles ne sont point des minéraux, mais des masses sonores. Et donc, cette lecture m'a évidemment renvoyé à ma propre relation au yiddish et à la relation que pouvaient avoir les étudiants au yiddish. J'étais bien consciente qu'on ne pouvait pas ressusciter des minéraux, qu'on ne pouvait pas ressusciter les fossiles, mais en revanche, on pouvait faire un travail d'archéologue. C'est-à-dire qu'on pouvait remonter à la surface les fossiles, on pouvait remonter à la surface les tessons, et avec ces tessons et ces fossiles, on pouvait faire un puzzle qui peut-être ressemblerait à quelque chose qui évoquerait cette langue perdue.
Alors, Rachel Hertel, comment, pour faire ce travail, concrètement, on pourrait dire, à partir de ce centre d'enseignement très chargé psychodramatiquement dont vous avez parlé tout à l'heure, vous créez un véritable lieu où vous formez des traducteurs, il y a une collection que vous créez, enfin, vous diligentez des traductions, vous faites, alors là, à ce moment-là, un travail considérable pour que soient rendus disponibles des textes qui ne l'étaient pas, et aujourd'hui, il y a un nombre important de livres qu'on vous doit, dont soit parce que vous les avez traduits, soit parce que vous avez dirigé des collections dans des maisons d'édition, vous avez, je ne sais pas si c'est, on peut le dire comme ça, mais supervisé la traduction, en tout cas, diligenté la traduction. Comment on devient une équipe, quoi? Comment vous créez ce...
Voilà, exactement. D'abord, il faut que je rende hommage à mes étudiants, parce qu'ils étaient absolument à la fois clivés et absolument fascinés par ce qu'ils ne pouvaient pas savoir et qu'ils voulaient savoir. Et ils allaient dans tous les endroits où on enseignait le yiddish, parce que l'année universitaire en France est de 28 cours par année, et ce n'est pas en cela qu'on peut former des traducteurs ou des interprètes ou des enseignants. Or, nous sommes attachés à ces, enfin, moi d'abord, et puis ensuite, une autre personne qui est arrivée d'Argentine, qui est Yitzhok Niborski, qui m'a donné un coup de main et qui a été très important pour m'aider à animer ce travail. Et donc, nous avons entrepris de former des enseignants d'abord. Donc, commençant, comme pour toujours, par l'alphabétisation, par les choses les plus simples. Et petit à petit, à force d'aller suivre tous les cours qui se donnaient au yiddish, ils ont fini par reconstituer ce puzzle. Et le reconstituer maladroitement au début, de manière difficile, de manière douloureuse. Et ils ont voulu traduire, quand j'ai commencé à introduire des séminaires de traduction, ils ont voulu traduire en même temps que moi et puis travailler avec moi. Évidemment, ils n'étaient pas à même de traduire directement, et il a fallu évidemment que j'y mette la main à la pâte, évidemment. Mais ça n'avait pas d'importance, parce que je le faisais avec un tel enthousiasme que ça compensait largement le travail que cela représentait. Et cette traduction, ils l'ont fait de manière aussi un peu problématique dans le sens où ils plongeaient dans cette langue qu'ils commençaient à connaître, qu'ils commençaient à reconnaître peut-être, et ils plongeaient là-dedans comme en apnée en quelque sorte. Et il fallait sortir de cette apnée et le remettre à l'air libre, c'est-à-dire prendre une langue qui était en train de disparaître et la faire apparaître au grand jour, et partir d'une langue qui était en train de disparaître, et puis de revenir vers quelque chose de vivant. Et ça, c'était quelque chose qui, d'abord, demandait des efforts énormes, et l'autre chose que cela demandait, c'était une situation psychologique difficile, c'est-à-dire que quand on traduit du yiddish, il y a un double mouvement qui se fait. D'une part, quand on traduit du yiddish, on fait œuvre de témoignage. On fait œuvre de témoignage pour cette langue qui est en voie de disparition. Et d'autre part, on fait le deuil de cette langue. Parce que traduire de l'espagnol ou de l'anglais, comme je l'ai fait, ou d'autres langues, eh bien la langue, elle reste. Tandis que quand on traduit du yiddish, la langue yiddish, elle s'érode, elle disparaît. Plus personne ne retournera vers cette langue pour la lire dans l'original, on n'aura que la traduction, si bien que c'est un véritable travail de deuil en même temps. Alors en même temps, et là vous me trouverez souvent en contradiction avec moi-même, c'est à la fois une joie et c'est à la fois une douleur. Et aucune langue ne connaît ça, parce que j'ai traduit de plusieurs langues et aucune langue ne disparaissait parce que je l'avais traduite. Alors que quand je traduisais du yiddish, eh bien, j'érodais le yiddish, il disparaissait, plus personne n'allait retourner vers le yiddish et allait lire ce que j'avais traduit moi.
Rachel Hertel, vous diriez que le yiddish est une langue morte, expression qui, venant à l'esprit, nous fait penser au grec et au latin ?
Pas du tout. Pas du tout, parce que le yiddish est d'abord est une langue qui a été exterminée, ce qui n'est pas la même chose qu'une langue morte, qui disparaît progressivement et qui se transforme d'ailleurs en d'autres langues, en d'autres dialectes. C'est une langue qui a été exterminée, qui a été brûlée, qui a été arrachée. Et c'est une langue qui persiste dans les, par exemple, dans les milieux ultra-orthodoxes. Et là, il y a un yiddish qui est matiné, par exemple, à Brooklyn d'anglais, très matiné d'anglais, qui en Israël, à Mea Shearim, est matiné d'hébreu. C'est une langue qui n'a rien à voir avec celle qui est la langue des locuteurs du yiddish naturel.
Ça vous arrive de vous promener, ça vous est arrivé, j'imagine, de vous promener dans des quartiers, effectivement, comme Mea Shearim à Jérusalem, ou certains quartiers de Brooklyn où on parle le yiddish. Comment, justement, quel accent vous percevez? Comment vous entendez cette langue? Quelle nature d'émotion ça procure chez vous?
C'est une langue qui m'est très étrangère à la fois par la sonorité, qui m'est très étrangère aussi par les concepts qu'elle véhicule et par les préoccupations qu'elle a et qui ne sont pas les miennes. Par exemple, il n'y a pas de littérature, ou s'il y a une littérature, elle est de bas étage. Il n'y a véritablement rien de vraiment créatif et de c'est un moyen de communication, voilà. Ça devient un moyen de communication et non pas un moyen de création, comme ça a été le cas pour le yiddish depuis 2000 ans.
On a commencé cette émission en citant une phrase que vous aviez écrite où vous notiez comment la culture et la langue yiddish avaient à un moment donné, vous aviez ce sentiment qu'elle rétrécissait comme une peau de chagrin à vos yeux. Et vous avez parlé de ces élèves qui venaient de familles où effectivement le yiddish n'était plus transmis comme dans la vôtre, hein, et dans une certaine mesure c'était un peu une exception, votre famille. Mais justement, comment comprendre cette ambivalence qu'ont eu les gens de la génération de vos parents vis-à-vis de la langue pour à la fois transmettre un désir, mais ne pas transmettre concrètement l'apprentissage de cette langue?
Bien, ça a été pour différentes raisons, là encore. D'une part, il y avait la raison de la peur. Nous étions peu de temps, finalement, après la guerre. Maintenant, la guerre nous semble de plus en plus proche, mais les années qui ont suivi l'extermination nous semblaient de plus en plus loin. Alors que là, maintenant, plus nous vieillissons, plus le khurb nous semble proche.
Et c'est donc, excusez-moi, mais c'est très paradoxal ce que vous venez de dire.
Et oui, c'est très paradoxal, mais la vie est paradoxale. Et c'est effectivement, maintenant, je pense que je sens beaucoup plus la proximité du Khurban, de la Shoah, que je ne la sentais quand j'avais 15 ans. Et plus je m'éloigne de cet événement, plus il me semble proche. Et donc, il y avait une tentative de protection des enfants, de ne pas vouloir les mêler à cette catastrophe, à ce drame, à cette extermination, donc de les protéger. Ça, c'était une des raisons. L'autre raison est peut-être plus d'ordre psychologique, c'est-à-dire il y avait l'idée que c'était au fond tout ce qui leur restait, c'était cette langue. Tout avait été perdu, rien ne restait, et il leur restait la langue. Et cette langue, telle qu'elle était parlée par les apprenants du yiddish, n'était pas la langue qui était leur langue vernaculaire, qui était leur langue familiale, qui était leur langue de tous les jours, la langue du quotidien et du simple. Donc, effectivement, moi je me souviens de m'être heurté à beaucoup d'étudiants, gentiment d'ailleurs, qui me disaient « mais ma grand-mère ne conjuguait pas, ma grand-mère ne déclinait pas, qu'est-ce que vous nous faites là ?» Eh bien, c'est très naïf comme question, et en même temps, c'était ben, ce qu'ils éprouvaient quand ils avaient entendu, les rares personnes qui avaient entendu cette langue n'avaient pas le sentiment que c'était une langue à l'égal des autres.
Rachel Hertel, est-ce qu'on peut revenir sur ce mot « urban » que je prends de vos, sans doute très mal, « urban » donc, et aussi sur la concurrence des mots pour nommer l'événement « urban », « Shoah », Holocauste, concurrence qui a d'ailleurs provoqué des polémiques. Moi, je me souviens notamment d'une querelle entre Lanzmann et Henri Méchoni, qui a une dizaine ou une quinzaine d'années, hein, se disputant la bonne nomination de l'événement. Comment vous voyez toute cette question du nom de l'événement ?
Le nom de l'événement est tellement hors commun qu'évidemment, il était impossible, difficile en tout cas, de lui trouver un mot adéquat. Il n'y a pas de mot adéquat pour le désigner. Donc, les victimes de l'extermination qui parlaient le yiddish l'ont appelé le Khurban. Le Khurban, c'est la destruction. Et ça fait référence à la destruction des deux temples de l'Antiquité, le premier et le deuxième temple. Et le véritable temple, au fond, c'est le peuple. Et quand le peuple a été exterminé, ça a été le troisième Khurban, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de survivants, il n'y avait plus d'espoir d'une survie de ce peuple. Ensuite, les anglo-saxons ont adopté le terme holocauste qui est totalement inadéquat, puisqu'il, en fait, il désigne une victime brûlée en hommage à un dieu ou pour se...
En sacrifice.
En sacrifice, en quelque sorte. Or, ça n'a jamais été un sacrifice, ça a été une extermination. Et puis enfin, il y a le dernier terme qui est
Le mot Shoah.
Le mot Shoah, bien sûr, qui a été adopté par le Parlement israélien et que Lanzmann a repris dans son magnifique film Shoah. Et c'est celui-ci qui a prévalu pour des raisons à la fois importantes et moins importantes. Shoah, parce que c'était un terme qui était facile à retenir. Et puis, parce que ça pouvait couvrir, ça pouvait toucher une population beaucoup plus importante que le terme Khurban, qui reste imprononçable dans beaucoup de langues.
Mais c'est ce mot-là auquel vous restez fidèle, en tout cas.
Moi, je reste fidèle parce que c'est le mot qu'ont utilisé les victimes du Khurban. Je voudrais encore citer une chose sur cette langue qui me semble très importante. C'est une citation qui vient de Maria Torok et Nicolas Abraham. Ce qu'il dit, c'est la chose suivante. « Et sans conteste, dans le ventre de la crypte, se tiennent indicibles, pareils aux hiboux, dans une vigilance sans relâche, des mots enterrés vifs. Le fait réalitaire consiste dans ces mots dont l'existence occulte s'atteste dans leur absence manifeste. » Et là encore, je reconnais ce qui se passe pour la langue yiddish, pour les mots yiddish qui guettent, en quelque sorte, qui sont dans une crypte. Et nous qui essayons de prolonger, ou ceux qui essayaient de prolonger cette langue, eh bien, c'était des cryptophores en quelque sorte. Ils portaient des cryptes vides et étaient menacés par cette langue qu'ils voulaient et qu'ils ne voulaient pas en même temps. Encore un paradoxe qu'il faut admettre.
Merci, au revoir Rachel Hertel et à demain.
À demain, merci Stéphane.
Et demain, la suite de cette rencontre de Stéphane Bou avec Rachel Hertel. À voix nue, attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Yann Fressy, réalisation Véronique Lamandour, coordination Belline Dola. Cette émission s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.